C'est l'heure du journal, Simon Rubin.
Je ne suis pas ici pour chercher la lumière, je suis ici pour chercher des résultats.
Le ton est donné, vous venez d'entendre quelques-uns des premiers mots de Jean Castex, le nouveau Premier ministre dans ce journal. On va revenir sur la passation de pouvoir avec son prédécesseur et puis on va se projeter quelle route politique va-t-il tracer ? Réponse à suivre. On s'intéressera aussi au parcours et au profil de cet homme de 55 ans, maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales, où les habitants l'apprécient manifestement.
Oh là là, ému, je le connais bien. C'est un homme de confiance. Mais ici, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime.
Reportage à suivre dans ce journal. Après 2 ans et demi de tension, un accord a été trouvé entre la veuve de Johnny Hallyday, Laetitia, et les deux aînés du chanteur, Laura Smet et David Hallyday. Et puis dans ce journal, on va partir en vacances.
Je suis un peu contente parce que je vais rester un peu en vacances. Mais je suis quand même triste parce que je vais plus voir mes copines.
Pas facile de quitter les copains et les copines. C'est la quille pour 12 millions d'enfants ce soir. La Bourse de Paris, elle termine en légère baisse à 5007 points. Didier Hameau de boursier.com nous dira comment s'est passée la journée sur les places financières. Et puis comme chaque soir, vers 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Olivier Mercier, le directeur général du producteur de boissons Britvic France.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous avons un nom, nous avons un visage et nous avons une voix. Jean Castex, nouveau Premier ministre, succède donc ce soir à Édouard Philippe et il sort de l'ombre. Un Premier ministre qui, sur le plateau de TF1, a donné le ton de son mandat.
Je suis un homme politique enraciné dans mon territoire, je suis un homme politique local, je suis un homme politique de la vie quotidienne des gens et cela me rend très fier. On ne vous propose pas souvent, surtout quand on est, comme moi, le fils d'une institutrice du département du Gers, issue de l'école républicaine, on ne vous pose pas souvent de telles fonctions. Donc j'ai ressenti cela avec une forte émotion, avec beaucoup d'humilité. On ne peut pas se dérober quand il s'agit de servir son pays. Je suis aujourd'hui Premier ministre. Donc un personnage politique, national. Je ne suis pas ici pour chercher la lumière, je suis ici pour chercher des résultats. Voilà, si je parlais aux Français, peut-être ce qui me définit le mieux dans mon parcours en termes politiques, madame, je dirais que je suis un gaulliste social.
Le Premier ministre Jean Castex qui était l'invité du journal de TF1 ce soir. Claudia Bertram, vous étiez à Matignon pour cette passation de pouvoir avec Édouard Philippe. On va revivre avec vous ce moment fort, moment solennel. Une passation très courte, Claudia, mais chaleureuse.
Oui, même si Édouard Philippe et Jean Castex ne se sont pas serré la main, mesures sanitaires obligent, ils se sont affichés souriants l'un à côté de l'autre. L'ancien et le nouveau Premier ministre se sont d'abord isolés en tête à tête un long moment à l'intérieur de l'hôtel de Matignon. Avant de ressortir dans la cour sur un tapis rouge, ils ont pris la parole, ne manquant pas de compliments l'un envers l'autre. Édouard Philippe a d'abord vanté le sens politique et la rigueur intellectuelle de son successeur. « Je n'ai aucun doute sur le fait que vous saurez prendre les bonnes décisions », a-t-il dit à celui qu'il avait nommé il y a 3 mois, le monsieur déconfinement du gouvernement. « Soyez bon », lui a-t-il lancé en conclusion de son discours, longuement applaudi. C'est même Édouard Philippe qui a dû mettre fin aux applaudissements. Jean Castex a pour sa part salué le bilan des 3 années de son prédécesseur à Matignon. Il a vanté un style, Édouard Philippe. « Une nouvelle étape du quinquennat s'ouvre », a affirmé Jean Castex. « Il nous faudra plus que jamais réunir la nation ». Et à l'issue de cette passation, Édouard Philippe a fait le tour de la cour de Matignon pour remercier ses équipes et c'est à pied et sous des applaudissements nourris qu'il a quitté les lieux.
Claudia Bertram depuis Matignon. Jean Castex, hein, il a 55 ans, c'est un haut fonctionnaire. Il a déjà travaillé dans le passé pour Nicolas Sarkozy, pour Xavier Bertrand et ces derniers mois, Emmanuel Macron l'avait chargé d'établir la stratégie du déconfinement. Mais c'est aussi un élu local et nous sommes ce soir dans son fief, dans les Pyrénées-Orientales avec Benjamin Péter. Benjamin, vous êtes à Prades, la commune où il est visiblement un maire très apprécié.
Oui, ici où il a été triomphalement réélu avec plus de 75% des voix au premier tour. Beaucoup s'y attendaient ou du moins l'espéraient, comme Marie-Jeanne qui espère qu'il pourra apaiser le pays.
Oh là là, ému, je le connais bien, monsieur Castex. C'est un homme de confiance. Mais ici, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime.
Qu'est-ce qu'il peut apporter?
Eh bien, je pense déjà beaucoup d'entente parce que les Français sont divisés. Il peut réunir.
À la mairie, c'est son premier adjoint, Yves Delcor, qui devrait lui succéder. Pour lui, c'est son empathie qui peut faire la différence.
Ce qui me fait plaisir, c'est que je vais avoir Jean Castex, le Premier ministre, comme conseiller municipal. C'est du luxe. La seule chose, c'est que c'est le début du mandat, c'est un peu difficile. Alors j'espère que dans 2 ans, tout ça reviendra à la normale. C'est quelqu'un, il vous rencontre, il vous salue, il sait comment vous vous appelez, et ça, régulièrement, dans tous les quartiers de la ville. Il est arrivé en 2008, personne ne le connaissait, même moi, je ne le connaissais pas. Et il m'a séduit.
Et d'ailleurs, dans les rues, beaucoup se présentent comme des copains du nouveau Premier ministre et se disent partant pour prêter Jean Castex à Emmanuel Macron, mais pour 2 ans, pas plus, pour qu'à l'issue du quinquennat, il vienne finir son mandat à la mairie de Prades.
Benjamin Péter à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. On l'a donc entendu, Jean Castex. On vient de découvrir un peu quel homme il est, quel est son parcours. Et maintenant, ce qu'on se demande, c'est que va-t-il faire ? Il a en tout cas devant lui des chantiers assez clairement identifiés. Jean-Rémy Baudeau.
Une nouvelle étape du quinquennat s'ouvre. Voilà les mots de Jean Castex ce soir sur le perron de Matignon. Une nouvelle étape avec une nouvelle feuille de route esquissée par Emmanuel Macron dans la presse ce matin. Reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle. Sur la table du nouveau Premier ministre, des promesses, des dossiers très politiques, la question de la crise sanitaire, la relance économique, l'hôpital avec le Ségur, éviter le chômage des jeunes, travailler à une taxe carbone, relancer le dossier des retraites. Tout ça en évitant de mettre les Français dans la rue et sans augmenter les impôts. Pour ce faire, il va devoir constituer une équipe. Tout va se jouer dans les prochains jours. Consultation en vue d'un nouveau gouvernement. Il faut adapter les méthodes, a dit Jean Castex. Petite phrase énigmatique qui laisse imaginer qu'Emmanuel Macron va lui-même changer de méthode, reprendre la main sur à peu près tout, avec un Premier ministre plus en retrait, plus technicien, plus exécutant.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Quant à Édouard Philippe, il a donc quitté Matignon sous les hurrahs de ses équipes, vous l'avez entendu il y a quelques instants, et il va désormais retourner au Havre, où il vient d'être élu maire, et les Havrais l'attendent avec impatience.
Vous allez lui dire hein, que les Havrais le redemandent. Je suis contente qu'il soit revenu, parce que je trouvais qu'il était bien, qu'il était valable, et puis il adore le Havre.
C'est quand même quelque chose de très valeureux quoi, de revenir à son poste de maire du Havre, au lieu de rester Premier ministre et puis de profiter de tous les avantages.
Il n'y avait pas tellement de choix finalement. Il était aussi bien ici, il aurait moins de soucis.
J'espère qu'il a été élu, donc il sera effectivement un vrai maire et que ça n'est pas qu'un tremplin. Il a été élu pour être maire, pas pour laisser son premier adjoint prendre le pouvoir d'ici quelques mois ou quelques temps.
Propos recueillis par Johanna Chabas. J-1 à Marseille avant le vote du conseil municipal pour élire le ou la nouvelle maire. Sur la ligne de départ, on compte 2 membres des Républicains, Guy Tessier et Lionel Royer-Perrault. Et à gauche, Michel Rubirola qui est arrivé en tête avec une majorité relative. Elle a tenté de négocier aujourd'hui avec Samia Ghali pour obtenir ses voix, mais pas simple apparemment. Michel Rubirola a refusé le marché proposé par Samia Ghali. Je ne serai l'otage d'aucun chantage, précise-t-elle. Ça y est, c'est l'épilogue de 2 ans et demi après la mort de Johnny Hallyday, la bataille pour son héritage prend fin. L'avocat de sa veuve, Laetitia Hallyday, annonce un accord définitif avec Laura Smet, écartée du testament, tout comme son frère David. Et du coup, Salomé Legrand se la met un point final à ce long feuilleton.
Et oui, à cette âpre bataille, même sur les fronts judiciaires et surtout médiatiques, image contre image, une veuve traînée dans la boue contre des enfants abandonnés et meurtris. Les premiers rounds, on s'en souvient, s'étaient joués devant le tribunal de Nanterre, juridiction compétente pour la résidence de Johnny à Marne-la-Coquette. Des audiences à rallonge durant lesquelles les aînés plaidaient que l'idole des jeunes était un pur produit français et donc que notre droit des successions l'empêchait de les déshériter. En face, les avocats de Laetitia le juraient plus américain que jamais. Premier revers pour la veuve du rocker en mai 2019, la justice française se déclare compétente dans une décision sans appel qui est écarte quasiment tous les arguments de son clan. Après cet échec, Laetitia Hallyday avait changé d'avocat fin juillet dernier et quasi un an après annonce donc ce soir un accord définitif avec Laura Smet. David Hallyday, lui, ne demandait qu'un droit de regard sur l'œuvre, mais surtout pas d'argent qui aurait pu le rendre débiteur du fisc. Il n'a donc pas participé aux négociations du côté de Laura Smet. Personne n'accepte pour l'instant de préciser le contenu exact de l'accord qui met fin à la bataille judiciaire.
Salomé Legrand du service police Justice d'Europe 1, une enquête judiciaire sera ouverte contre plusieurs ministres dans le cadre de la gestion de l'épidémie du coronavirus. La commission des requêtes, qui est composée de hauts magistrats, a en effet jugé aujourd'hui recevables 9 plaintes contre Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran, l'actuel ministre de la Santé. La direction du groupe Air France annonce ce soir son intention de supprimer 7580 postes qui concerneraient Air France, bien sûr, mais aussi sa filiale Hop d'ici fin 2022, et ce, pour faire face à la crise du Covid. On termine ce journal avec une page vacances qui débute, bien sûr, les grandes vacances qui commencent ce soir, d'abord pour 12 millions d'élèves. Angèle Châtelier, vous êtes allée à la sortie d'une école du 15e arrondissement de Paris. Est-ce que c'est l'euphorie des grandes vacances pour les enfants ?
Bien, peut-être un peu moins que d'habitude, car les élèves n'ont pas profité très longtemps des copains, comme Louise qui se languit déjà d'eux.
Je suis un peu contente parce que je vais rester un peu en vacances, mais je suis quand même triste parce que je ne peux pas voir mes copines. Il y en a quelques-unes que j'ai leur numéro, mais on ne pourra pas se voir en vrai.
Et puis même si ce n'était que 2 semaines, pour les parents aussi, c'était une bulle d'air de ne plus avoir les enfants à la maison.
On sentait qu'ils s'ennuient un petit peu, donc retrouver leur maîtresse, leurs copains, c'était important. On marque la fin d'une année et puis on se prépare pour le début d'une autre.
Et entre-temps, il y a les vacances, même si les destinations sont plus limitées que les années d'avant.
Je vais au Mexique ? Non, je vais pas au Mexique, c'est juste une blague.
C'est une blague parce qu'on peut pas.
Oui, c'est ça.
Mais c'est l'occasion de passer des moments en famille.
Je vais aller chez mes tantes, ensuite je vais aller chez ma marraine. Et peut-être mon tonton va venir me chercher pour aller à Disney.
Le programme pour la plupart des enfants de l'école Gutenberg pour cet été, jeux vidéo, colo et quelques après-midi avec les copains, avant de reprendre l'école et pour certains, faire sa grande rentrée en 6e.
Rentrez bien, à l'année prochaine.
Angèle Châtelier qui était devant une école parisienne. Et les vacances, c'est aussi le top départ, enfin, d'une saison touristique qui a été largement amputée par la crise cette année, d'où l'attente immense de nombreux professionnels, notamment au bord de la Méditerranée. Stéphane Frangy, vous êtes près de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, et ça y est, les premiers vacanciers arrivent déjà à tout sourire.
Ah, difficile d'imaginer les choses autrement quand on est accueilli par le chant des cigales, même si certains sont moins dépaysés que d'autres. C'est le cas de Jean-Luc qui est venu en voisin.
De Vitrolles, pas loin, 35 km. On redécouvre la France. Oui, c'est le circuit court, voilà. Et en plus, ce cadre, tous les mois, on voit Camping Paradis, donc on adore.
Première arrivée, premier servi pour l'heure. Eh bien, il y a l'embarras du choix pour les meilleures places autour de la piscine. Philippe en profite pour patauger avec ses deux filles. Ces vacances ont pour eux une saveur particulière.
On s'est rendu compte après ces derniers événements à quel point la famille était sacrée. Quand on prend le temps avec les enfants et que soi-même en tant qu'adulte on redevient enfant, on reprend vraiment goût à la vie et on a le sourire jusqu'aux oreilles.
Des clients peu nombreux mais des clients heureux. Allez, ça satisfait pour l'heure Rosie, la patronne du camping Le Mas.
Ah, oh, ça fait plaisir que les gens soient contents d'arriver, qu'ils aient envie de profiter de notre soleil, de nos cigales, de la mer. Bon, c'est vraiment des vacances. Et apparemment bien mérité pour tout le monde.
Car après une période balbutiante pour son activité, depuis la reprise, c'est enfin, elle l'espère, le top départ pour sa saison.
Stéphane Frangy, près de Martigues, pour Europe 1. Dernier mot de sport et de Formule 1. La Formule 1 qui débute enfin. Championnat du monde qui avait été décalé, comme toutes les grandes compétitions, à cause de la pandémie de coronavirus. Et dans le monde d'après, eh bien, c'est toujours Mercedes qui domine. Les deux voitures de l'écurie allemande sont en tête des essais libres après cette première journée. Les qualifications qui auront lieu demain. On passe à la météo. Avec vous, Anissa Haddadi. Demain, un temps qui sera un petit peu plus ensoleillé.
Oui, effectivement, Simon, et c'est à cause d'une légère perturbation océanique qui apporte des nuages et quelques averses en bord de Manche demain matin. Alors sur le quart nord-ouest des Pays de la Loire jusqu'à la Champagne, en passant par la région parisienne, la Normandie et les Hauts-de-France, eh bien là, demain, le ciel est très couvert. C'est un samedi un petit peu tristouné que vous allez passer partout ailleurs. Après la dissipation des nuages matinaux, le soleil s'impose et la journée sera globalement belle. Dans le sud, faites attention tout de même, le Mistral et la Tramontane soufflent toujours jusqu'à 80 km. Les températures, elles remontent légèrement. Demain, c'est une bonne nouvelle, avec 10 à 15 degrés le matin jusqu'à 21 en bord de Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, c'est encore un petit peu frais, avec en bord de Manche seulement 19 degrés à Brest, 21 à Rennes et à Nantes. Dans le nord-est, ouais, il fait frais, 23 à Aurillac et Niort, 24 à Paris. Et puis dans la moitié sud, ça grimpe un peu demain. C'est agréable, avec 26 à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 28 à Strasbourg et Nice, 30 à Valence, 33 33 à Montpellier, jusqu'à 34 à Nîmes.
Merci Anissa Haddadi. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de soleil. Bon, il y en a un petit peu moins que prévu. J'étais un peu optimiste. On vous retrouve à minuit pour la météo complète. On marque une pause et dans un instant, la grande page écho, l'invité d'Emmanuel Duteil. Et puis avant ça, l'actualité des places boursières et financières avec Didier Hamo. Europe 1. À 22h16, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hamo de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Simon.
En l'absence de Wall Street ce soir, fermé pour cause de fête nationale américaine, la bourse de Paris a terminé en baisse dans un marché calme.
Oui, comme d'habitude, hein, quand Wall Street est fermé, il ne se passe pas grand-chose sur les marchés en Europe, malheureusement. Et du coup, la Bourse de Paris a tourné en rond, en baisse, oui, de 0,84% dans un marché très calme. Le CAC 40 préserve quand même les 5000 points, 5007 points à la clôture. Après leur gros rebond d'hier de plus de 2%, certains secteurs sont redescendus sur des prises de bénéfices, comme l'automobile, Valeo, moins 3%, l'équipementier Faurecia, moins 3% aussi, Peugeot, moins 2,2%, Michelin, moins 2%, ou Renault, qui revient en arrière de 1,4%, 22,30€. Le secteur de la distribution aussi recule avec Casino, moins 4,5%. Et puis Carrefour redonne 2%, 13,56€. Donc pas beaucoup de mouvements aujourd'hui en Bourse de Paris.
Exception du jour, le groupe Chargeur qui a fortement progressé.
Quand même, oui, plus 6,4%, 14,28€. L'annonce du gouvernement qui compte inciter les entreprises à constituer des stocks de masques couvrant jusqu'à 10 semaines de crise en cas de deuxième vague profite au groupe Chargeur, fabricant de masques lavables. À fin avril, son carnet de commandes était déjà de près de 300 millions d'euros. Donc c'est une bonne nouvelle évidemment pour le groupe qui en profite, plus 6,4% ce soir, 14,28€. Sur les autres places financières, il ne s'est pas passé grand-chose non plus en Europe. À Francfort, qui recule de 0,6%, Bruxelles, moins 0,2%, Milan, moins 0,7%. Et donc, on rappelle, le CAC 40 en baisse de 0,84%, 5007 points.
Merci pour ce tour d'horizon, Didier Hamo de boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité écho. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Olivier Mercier, qui est directeur général de Britvic en France.
Bonsoir Olivier Mercier.
Bonsoir Daniel Duteil.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général en France de Britvic. Alors si je dis ça comme ça, j'ai perdu toute la salle, je pense. Mais si je dis les marques qui sont les vôtres et qui sont bien connues, les sirops Tesser, les jus Pressade et on pourrait en citer d'autres, là tout de suite, on vous connaît beaucoup mieux. Justement, est-ce que vous faites partie des marques qui ont profité du fait qu'on soit resté à la maison?
Alors effectivement, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé lors du Covid, les gens sont restés chez eux. Bien évidemment, toute l'activité qui était sur les restaurations, les bars ont été arrêtées. Et donc, il y a eu effectivement un transfert d'achat dans la grande distribution où les marques Siro, qui ont été jugées comme certainement plus économiques, plus écologiques et répondant aux besoins de toute la famille, ont profité à nos marques Tesser et Moulin Valdon.
Et puis il y avait un côté très pragmatique, c'est-à-dire qu'on avait pour certains les enfants à la maison, il fallait un peu plus que d'habitude avoir ça en stock, j'imagine.
Alors vous avez raison, effectivement, hein, le sirop comme particularité, finalement, avec un volume, on rajoute 12 volumes d'eau, ce qui fait un grand verre de boisson rafraîchissante et finalement peu sucrée, puisqu'on la dilue, et qui répondait à l'attente finalement des plus jeunes et des moins jeunes, avec un aspect beaucoup plus convivial, un aspect également sain de nos produits, hein, puisqu'aujourd'hui on a des gammes qui sont capables, qui sont très modernes, hein, qui ont répondu à ces attentes consommateurs, notamment avec du moins de sucre, avec des arômes naturels, avec des gammes bio, avec des gammes zéro. Donc on a vraiment élargi depuis 2 ans, et voire plus, nos gammes pour répondre à ces attentes consommateurs. Et donc effectivement, on en a bénéficié, et nos consommateurs ont pu en bénéficier pendant cette période à la maison.
Est-ce que ces consommateurs sont revenus? Est-ce que certains vous ont redécouvert? Puisque le marché que vous représentez, hein, des sirops à diluer comme on dit, c'est pas très joli mais c'est comme ça qu'on vous appelle, était un marché quand même en difficulté depuis quelques années.
Alors vous avez raison, c'était un marché en difficulté depuis on va dire 4-5 ans maintenant, où on a vu des consommateurs qui sont partis sur d'autres gammes, sur peut-être des produits plus à base de thé ou sur des boissons énergétiques. Et puis, nous, fort de ce constat, on n'a pas attendu, hein, c'est un peu la patte de Tesser, on a continué à vouloir innover et à revoir finalement nos recettes, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et comment on allait aller à nouveau à l'encontre de nos consommateurs. Et effectivement, on a donc revu la majorité de nos recettes, hein, où on a aujourd'hui toute une gamme Olin Valdon qui est en arôme naturel. On a toute une gamme aujourd'hui TCR à la fois qui est bio, qui est zéro, qui est arôme naturel, qui est fraîcheur de fruits avec 85% de fruits, qui est fraîcheur de thé avec des recettes avec de l'infusion de thé.
Et ça a permis de faire revenir les clients et peut-être à certains pendant le confinement de vous redécouvrir alors qu'ils vous avaient oublié.
Alors effectivement, il y a eu deux vertus. La première, c'était de regagner en pénétration, hein, puisqu'on a gagné quasiment 1 million de foyers, la catégorie sirop a gagné 1 million de foyers, et puis ça a permis de faire redécouvrir tout ce qui avait été fait sur le sirop, parce que finalement de nombreuses choses avaient été faites, mais avaient été peu communiquées. On se rend compte que là, bah, on est en post-Covid, mais qu'on a une consommation qui reste très solide.
Ils ont repris des habitudes pendant le confinement, et certains les font durer ?
Oui, exactement, c'est ce que l'on voit aujourd'hui sur nos sorties. Puisqu'on a une consommation qui reste assez solide. Et je pense que c'est expliqué par plusieurs phénomènes. D'abord, les gens se rendent compte que la boisson était saine. Finalement, c'est du fruit. C'est du fruit qu'on peut la diluer.
On sent que vous voulez vraiment beaucoup convaincre sur ce point-là. C'est-à-dire que c'était vraiment là-dessus que beaucoup ont critiqué en disant les boissons sucrées. Ouais. Là, je sens que vous avez envie de convaincre là-dessus.
Alors, je veux non seulement convaincre, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on est un peu parti, on a eu cette espèce de ce qu'on appelait le sugar bashing pendant plusieurs années. On a
dit mais qui revient pas, encore, hein, puisque là, à peu près comme chaque année, au moment des discussions au Parlement, il y a encore à peu près l'idée qui arrive de se dire, et si on arrêtait la publicité aux heures où les enfants sont devant le poste pour tout ce qui peut être sucré. J'imagine que ça vous inquiète.
Alors, ça nous inquiète, oui et non, puisque, comme je le disais, aujourd'hui, dans les boissons sans alcool, finalement, la boisson la moins sucrée, c'est le sirop, puisque si on ajoute 12 volumes d'eau, on est à 6 grammes pour 100 millilitres, ce qui est faible. En moyenne, la boisson sans alcool, c'est plutôt 10 grammes pour 100 millilitres. Donc, on a une boisson qui est saine. Mais vous savez, il ne faut pas voir que le côté sain des choses. C'est aussi une boisson qui est économique. Hein, on l'a vu pendant le Covid, hein, il fallait faire des courses. Bah, quand on prend un bidon et qu'on est capable de faire avec un bidon plus de 6 litres de boisson, c'est formidable. Puis c'est aussi une boisson qui est écologique et éco-responsable, puisqu'on a à la fois un bidon qui est métallique, qui est parfaitement recyclable, qui est aussi produit localement, et puis on a maintenant des gammes qui sont faites avec des fruits locaux. Donc on coche un petit peu toutes les attentes des consommateurs. On a un consommateur qui a fortement évolué pendant le Covid. Il n'y a pas eu de changement de consommation. Il y a eu une accélération des tendances de consommation. Et tout ce qui était bio, tout ce qui était naturel, tout ce qui était économique, tout ce qui était écologique, finalement, a été renforcé. Et nous, on a un produit qui répond parfaitement à cette demande-là.
Si on regarde maintenant du côté des restaurants, si on regarde du côté de la restauration collective, des cafés, hein, qui sont bien évidemment aussi des clients extrêmement importants pour vous, est-ce qu'il y a là une véritable reprise ? Parce que tout le monde dit que c'est, semble-t-il, quand même encore timide du côté de la restauration.
Alors, nous, ce que l'on voit en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il y a une reprise. Moi, j'étais même extrêmement surpris des chiffres du dernier mois sur les sorties. On a eu des commandes bien supérieures à ce que l'on attendait. Donc, il y a une réelle reprise. Je pense que, quoi qu'on puisse en penser, bah, l'ouverture, les gens y vont, consomment, passent du temps ensemble dans les mesures sanitaires qu'elles sont. Mais aujourd'hui, en tout cas, on voit quand même une vraie reprise. Et puis, je pense qu'il faut maintenant voir dans le temps comment la consommation va perdurer, comment les gens vont continuer à aller à l'extérieur, ressortir, malgré finalement toutes les mesures de sécurité qui sont bien normales, mais qui vraiment réduisent la consommation dans ces endroits-là.
Eh bien, on va suivre tout ça. Un grand merci, Olivier Mercier, le directeur général de Britvic, hein, le groupe qui détient donc Tesser et Pressade. Moi, je vais vous souhaiter un excellent été. Bah oui, on va prendre quelques vacances. L'interview Echo va se mettre en pause pendant ces mois d'été. Puis j'espère bien qu'on vous retrouvera à la rentrée, sûrement à la même heure. Un grand merci à vous de nous avoir suivis toute cette saison et un grand merci à Anne-Claire Bazin qui, en coulisses, est indispensable pour préparer chaque jour cette interview économique. Un grand merci à vous tous, un très très bel été et à très vite.
Merci Emmanuel Dutheil et très bel été à vous. On vous retrouvera quand même tout au long de l'été, hein, sur les antennes d'Europe 1. Dans un instant, bah, on va jeter un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères et consoeurs de la presse écrite ont choisi de mettre en avant. Allez, si vous avez suivi le journal, vous vous en doutez un petit peu. Jean Castex, le nouveau Premier ministre, il y a des chances qu'il soit la une de beaucoup de journaux. A tout de suite sur Europe 1. Voici ce que vous allez découvrir demain à la une de vos quotidiens. Et je vous le disais, effectivement, il y a un sujet d'actualité qui fait parler et qui monopolise toutes les unes quasiment. C'est la nomination de Jean Castex, nouveau Premier ministre. Libération l'affiche en une avec ce titre « Macron confine Matignon ». Référence, bien sûr, au fait que Jean Castex a géré le déconfinement du pays, mais aussi qui est lié à son profil, moins étincelant qu'Édouard Philippe, qui ne fera certainement pas d'ombre au président, c'est du moins ce que s'autorisent à penser les analystes politiques interrogés par le journal Libération. Aujourd'hui en France, le pari de Macron, un inconnu à Matignon. Un inconnu à Matignon, c'est ce qu'on disait d'Édouard Philippe lorsqu'il avait été nommé. Et c'est ce qu'on dit donc de Jean Castex. Qui est Jean Castex, s'interroge aujourd'hui en France. Portrait de ce gaulliste social qui devient Premier ministre à 55 ans. Lui qui est maire d'un petit village des Pyrénées-Orientales. Lui qui a travaillé pour Xavier Bertrand, pour Nicolas Sarkozy. Et puis aujourd'hui en France, qui choisit aussi de revenir sur les détails d'une rupture entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Une rupture qui s'est jouée dans les dernières semaines, les derniers mois du quinquennat actuellement en cours. Et puis bien sûr, aujourd'hui en France, qui revient sur les perspectives, les dossiers chauds à venir, le chômage, la santé, l'écologie. On sait que Jean Castex sur TF1 ce soir a estimé que l'écologie n'était plus une option, qu'elle était dans toutes les têtes et qu'elle devait transcender les classes politiques. Aujourd'hui en France, qui revient également sur l'héritage de Johnny. On en a parlé puisqu'il y a cet accord qui intervient après 2 ans et demi de bataille judiciaire entre d'un côté Laetitia Hallyday et de l'autre Laura Smet et David Hallyday, les deux aînés qui ne devaient rien toucher de cet héritage. Et bien enfin un accord a été trouvé et aujourd'hui en France nous emmènera dans les coulisses d'une réconciliation. Ouest France avec Jean Castex, nouveau Premier ministre, beaucoup plus sobre cette une où l'on voit Jean Castex aux côtés d'Édouard Philippe. Et cet éditorial de François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, il aime le sport et il va être servi. Jean Castex, qui était effectivement, avant d'arriver à Matignon, eh bien, l'un des hommes forts du projet des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, hein, puisqu'il était le délégué interministériel sur cette question. Il a aussi géré l'Agence nationale du sport qui pilote toutes les politiques sportives du pays. Et là, effectivement, il va être servi, ça va bouger, il va falloir s'accrocher. En tout cas, cela promet d'être très dur et très agité, précise François-Xavier Lefranc dans son éditorial. Ouest France, qui va revenir aussi demain sur cette page économique. Pourquoi Air France supprime 7600 postes? On parlait d'Airbus hier. Eh bien, aujourd'hui, c'est Air France dont la direction a annoncé des suppressions de postes d'ici à 2022, à la fois dans le groupe Air France, mais aussi chez Hop, sa filiale, en raison évidemment de l'épidémie de Covid et de ses conséquences économiques. Et puis, il y a cette page également sur l'Afrique et les criquets qui prolifèrent, des champs entiers ravagés, des centaines de villes et de villages qui sont engloutis par ces vagues de criquets qui prolifèrent depuis déjà de longs mois en Afrique. Une enquête qui tente de comprendre comment tout cela est arrivé. Le Dauphiné, là encore pas de surprise. Pourquoi Macron a choisi Jean Castex? Le journal qui va également s'interroger sur un autre dossier politique très chaud en ce moment, c'est l'élection du maire de Marseille. Le conseil municipal qui doit nommer le ou la maire, il a lieu demain. Une élection où le suspense reste entier, précise le Dauphiné. Et puis également dans les journaux de demain, et je crois que c'est notamment Ouest France qui va essayer de vous emmener en vacances d'ores et déjà, mais des vacances pas chères. Et en France, pour évidemment essayer de contourner les difficultés du Covid qui vous empêchent et qui nous empêchent bien souvent de partir à l'étranger. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Très belle soirée à l'écoute d'Europe 1 et je passe la main et je passe la voix à Sabine Marin. Bonsoir Sabine.
Bonsoir à vous Simon.
Vous allez bien, vous êtes prête j'imagine à accueillir les confidences, les émotions, les impressions, les sentiments de nos auditeurs.
Exactement.
Eh bien je vous souhaite une très belle nuit en leur compagnie.
Merci beaucoup Simon.